C'est vendredi et ça donne envie. Elisabeth Bouvet, bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Alors, envie de cinéma aujourd'hui?
Absolument. Aujourd'hui, on va au cinéma Paradiso. On embarque avec le CNA, autrement dit, le cinéma numérique ambulant, du nom d'une association qui, depuis 3 ans, sillonne les coins les plus reculés du Bénin, du Mali et du Niger pour y projeter des films. L'idée est née de la simple observation. Laurence Vendroux et Christian Lambert, deux intermittents du spectacle, ont de par leur métier été parfois amenés à accompagner des tournages en Afrique. Et c'est là qu'ils ont pris conscience de l'isolement de certains villages et qu'a donc germé l'idée de pallier cette carence en leur apportant carrément l'image à domicile. Les nouvelles technologies ont évidemment facilité leur tâche. Plus besoin d'un semi-remorque pour véhiculer les bobines de films. Grâce au numérique, la logistique est réduite à sa plus simple expression et du même coup, tout devient possible.
Elisabeth, vous avez rencontré Laurence Vendroux et Christian Lambert, les deux fondateurs de CNA, et effectivement, ils vous ont bien confirmé que le cinéma numérique ambulant avait bel et bien pour vocation, bel et bien, j'insiste,
absolument,
vocation d'aller là où personne ne songerait à monter un cinéma, même en plein air.
Nous, on essaye d'aller là où il n'y a rien. On essaye de pas du tout être concurrentiel de cinéma qui est déjà existant dans les grandes villes et tout ça. On va là où il n'y a pas d'électricité, là où il n'y a pas de cinéma, là où il n'y a pas de télévision. On va là où il n'y a rien.
Et surtout, on va dans des endroits où les gens n'ont jamais eu d'accès à l'image.
Alors, il faut tout monter. Là, il n'y a rien, vous le dites. Alors, vous arrivez, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous leur offrez?
On arrive avec notre voiture. Dans cette voiture, il y a évidemment un groupe électrogène assez léger. En fait, toute l'histoire du cinéma numérique ambulant, c'est que le matériel est léger. Il peut même rentrer à l'arrière d'une petite voiture. On a donc un groupe électrogène, un vidéoprojecteur. On a une sono de très bonne qualité. On a un écran de 4 mètres par 3. Qui se monte, tout ce matériel se monte en, on va dire, 20 minutes. Il n'y a pas besoin de formation très compliquée.
En fait, on a beaucoup profité des progrès techniques de la vidéoprojection et de l'informatique. Et maintenant, avec un matériel relativement peu cher et très léger et facile à monter, on peut faire des projections de très bonne qualité. Et à partir du moment où on a où on passe des DVD, on a une qualité du son tout à fait étonnante. Et puis on a un système assez ingénieux pour l'écran, et ce qui fait qu'on a un grand écran qu'on peut plier, ça tient même pas dans une valise, et puis voilà, et quand on le déplie, c'est quand même très très spectaculaire. Et on recrée une véritable salle de cinéma en extérieur.
Alors, créer tout court d'ailleurs, parce que vous dites qu'il n'y avait rien, c'est plutôt ça, créer une salle de cinéma en extérieur, est-ce qu'il y a une espèce de contrat entre vous et le village?
Et il y a un contrat entre nous et le village, c'est-à-dire que, bon, tout au départ, évidemment, on a été repéré les lieux. Donc, quand on arrive, on a repéré la place du village, on a rencontré évidemment les responsables des villages, les vieux évidemment. Ils nous ont dit que ce serait mieux de s'installer là. Donc on arrive, on leur demande, on a un cahier des charges en fait. Donc on leur demande de nous amener des nattes, des bancs, des chaises évidemment pour les vieux. Sinon tous les enfants se mettent par terre sur les nattes, ça c'est vraiment sympa. Les femmes, très souvent, restent debout avec les bébés, elles ont beaucoup de mal à s'asseoir. Les hommes se mettent au fond. Les vieux, on essaye vraiment de les installer le mieux possible, le plus près de nous. Parce qu'on essaye de parler, on a un micro qui circule aussi par terre, enfin partout. Et donc les gens prennent le micro et traduisent simultanément ce qui se passe, ils posent des questions, etc.
Alors traduction, parce que ce sont des films qui viennent d'où?
Ben, c'est des films qui viennent des pays africains, parce qu'en fait, nous, en fait, le but de ce cinéma numérique ambulant, c'est d'amener l'image et surtout leur image à eux. On a retrouvé des films de Mustapha Alassane, on a retrouvé des films du cinéma nigérien, parce qu'ils en ont fait beaucoup, contrairement au Bénin, où par contre, il n'y a pas beaucoup de cinéastes. Et on amène des films du Mali, du Burkina, et comme ça, ils aiment beaucoup voir aussi ce qui se passe dans d'autres pays. C'est pas très loin, mais les traditions sont pas les mêmes, et ça, c'est un truc qui leur plaît vraiment beaucoup, quoi, de
voir ce qui se passe un peu ailleurs. Pardon, c'est un patrimoine qu'ils connaissent ou qu'ils découvrent, en fait?
C'est vraiment un patrimoine qu'ils découvrent.
C'est un patrimoine que quelques intellectuels connaissent en ville. Intellectuels, pas au sens péjoratif, hein, quelques personnes cultivées qui ont fait un minimum d'études et tout ça, qui habitent en ville, connaissent. Ils savent qu'il y a eu des réalisateurs nigériens, ils savent qu'il y a eu, ou béninois d'ailleurs, ils savent qu'il y a eu, ils n'ont pas eu l'occasion de voir, pas souvent, ou même jamais, mais ils savent que ça existe. Et on sait qu'à Paris, à la Cinémathèque, il y a des films, mais bon. qui verra ces films. Alors maintenant, il y a un petit peu des problèmes de piratage, ce qui fait qu'on peut trouver des cassettes vidéo pour vraiment pas cher, mais c'est une qualité tellement, tellement déplorable, c'est terrible. Donc ce patrimoine-là, enfin, en tout cas, là où le CNA va, on le fait découvrir complètement. Mais on se rend compte que c'est un patrimoine qui leur est proche, qui leur appartient. C'est vraiment quelque chose qui leur appartient. Passer des films africains en Afrique, ça prend une dimension tout à fait étonnante.
Vous avez des souvenirs comme ça, justement, de projections qui ont donné lieu à des débats ou à des éclats, enfin, je...
Mais moi, j'ai surtout des souvenirs de films que j'avais découverts en France et que j'avais aimé, je trouvais ça bien, poétique et tout ça, c'est pas mal et tout ça, et que j'ai revu ces films au milieu de la foule, dans la brousse, là où j'ai perdu complètement, et au milieu de ces gens qui manifestement jubilaient, riaient à des moments où je n'avais même pas remarqué, j'avais même pas eu l'intelligence de voir la finesse de ces films et tout ça, et j'ai redécouvert une dimension à ce cinéma complètement impressionnante, mais que ce soit de la plus pure comédie, du Ballon d'Or ou de Balle Poussière, à des films beaucoup plus tragiques comme Tilaï ou Wenkuni, c'est incroyable. Le public là-bas m'a réappris à voir les films.
Alors vous parlez de foule, il y a une vraie curiosité, un appétit, quelque chose qui se développe au fur et à mesure justement. Il y a beaucoup de monde qui se déplace pour venir voir les films.
Il y a énormément, énormément de monde. On peut très bien arriver à des projections où il y a 90-100% du village et c'est 1000, 1500, 2000 personnes, c'est tout à fait possible. On a des plus petits villages au sud du Bénin où on a 300, 400, 500 personnes. Mais il y a des villages au nord du Bénin et au Niger où on est facilement à 2000 personnes par soir. Sans problème. C'est très très impressionnant.
Alors, leur donner le goût du cinéma, faut-il encore revenir, non ? Parce que quand vous partez, ça doit être un peu dur, non ?
Nous, on espère qu'on reviendra souvent. Enfin, on revient dans chaque village, on revient 10 fois. C'est pas une seule fois. On revient 10 fois, on explique bien ça au départ. On va venir 10 fois tous les 15 jours, 2 fois par mois. Et on fait des projections en 2 parties. Une première partie avec les films qu'on a trouvés sur place, qui ont été réalisés par les ONG locales, par les grosses institutions, par ou même des films qu'on a trouvés ici comme Moussa le Taximan, mais qui sont complètement internationaux et tout ça. Et puis les films du patrimoine du cinéma africain qu'on passe en 2e partie. Et ça, c'est une de nos grandes fiertés. En tout cas, quelque chose dont moi je suis vraiment très très heureux, c'est que je suis sûr qu'un gamin de 12, 13, 14 ans qui va voir 10 fois le CNA venir et qui 10 fois va découvrir un film du cinéma africain dans son village alors qu'il n'avait rien, que s'il a de la chance d'aller à l'école, c'est déjà énorme. Et je suis sûr qu'on lui amène vraiment quelque chose d'important. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va ? Je peux pas dire, mais je suis sûr qu'on ne fait pas du mal.
Forcément, c'est un peu magique en fait.
Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. C'est complètement magique. Et on commence à comprendre déjà comment économiquement on va pouvoir durer. Mm-hmm. Parce qu'on ne gagne pas d'argent dans ces villages, c'est impossible.
Mais c'est gratuit, hein.
C'est pas gratuit, on peut pas dire, on ne fait pas payer d'argent. On ne va pas demander 25 francs CFA qui correspondraient à 15 centimes d'euros par personne. On ne va pas demander. Parce qu'on sait qu'on ne les aurait pas, ou qu'on aurait des resquilleurs, ou que si, ou que ça, et que dans des endroits où vraiment il y a très très peu d'argent, qui sont proches d'une démonétarisation, c'est pas possible. Mais on demande un vrai échange, on demande une implication, on demande des choses. On explique que c'est pas gratuit. Et là, on commence à percevoir les fonctionnements économiques qui pourraient faire que le CNA puisse durer.
C'est-à-dire ?
Oh ben ça, c'est toute une aventure. C'est les gens qui ont besoin de nous. Les ONG, justement, qui souhaitent établir des programmes dans des coins et que le CNA vienne diffuser leurs films, vienne expliquer.
À une portée pédagogique, non plus seulement culturelle, ce qui n'enlèverait rien au volet culturel, mais aussi un côté un peu pédagogique, alors.
Non, c'est complètement marié, le volet culturel. Le CNA, c'est pas que la structure technique. Le CNA, c'est aussi les films. Si on a 2000 personnes par soir dans les villages du Niger, c'est parce qu'il va y avoir le film. C'est pas parce qu'on va leur présenter un film contre le palu. Par contre, ces 2000 personnes, ils vont regarder le film contre le palu, enfin, qui lutte contre le palu ou contre le sida, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un film derrière. Donc, le cinéma fonctionne complètement comme un produit d'appel pour cette réunion de gens qui vont venir au spectacle, qui vont venir au cinéma et qui vont, du coup, avoir toute une première partie où on peut aussi bien leur passer un Buster Keaton qui va les faire se tordre de rire, mais aussi où on peut leur expliquer qu'il faut mettre un préservatif s'il y a besoin besoin de mettre un préservatif.
Alors, vous dites que le film est un produit d'appel. Sur les temps, vous avez l'impression qu'ils sont quand même réceptifs à ce message que vous pouvez donc divulguer en avant-film.
Ils sont complètement réceptifs. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte en travaillant sur le terrain, en travaillant dans les grandes villes, en cherchant dans les ONG. On a eu quand même beaucoup de mal à trouver des films. Et en fait, on a trouvé des fictions qui ont été faites en langue locale. Et qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et les gens réagissent. On a par exemple Anna Basile et le génie. C'est des fictions, une fiction sur les problèmes d'hygiène qui est produite par le ministère au Bénin. Ils ont fait une suite Anna Basile et le trafiquant. C'est une fiction sur les problèmes de trafic d'enfants au Bénin, les enfants placés. Donc ça, après, on discute avec les gens et les gens réagissent. Parce que c'est vrai qu'au bon, là-bas, il y a ce problème-là qui est un problème récurrent qui revient tout le temps. Et donc les gens réfléchissent et se disent non, il faut pas faire ça, mais c'est dans leur tradition. Donc ça, c'est vraiment très très difficile à enrayer. Mmh. Mais nous, on n'est pas là non plus pour expliquer ça. C'est-à-dire, on est juste là, on amène la discussion en fait.
C'est ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir qui prend la parole, qui ne prend pas la parole. Il y a toujours un instituteur qui explique, qui dit, qui lui connaissait l'histoire de Lumumba, qui c'est lui qui a réclamé qu'on passe Lumumba, c'est lui qui explique aux gens ce qui s'est passé et tout ça. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens, même ceux qui ne parlent pas le français, qui savent où c'était le Congo, qui savent que Lumumba c'était au Congo, que si, que ça. Et c'est très très étonnant. Il y a une espèce de mémoire, je ne sais pas comment on peut dire, mais de mémoire collective et de mémoire inconsciente, ils connaissent cette histoire-là et quand on leur montre le film, ils savent que ça s'est passé. C'est très très impressionnant. C'est très...
Et surtout dans ces régions, vous le dites, totalement isolées a priori. Mmh. C'est ça qui est le plus...
Ouais, ouais. Enfin, ça me fait penser qu'on essaye vraiment dans cette première partie où on passe beaucoup de films de sensibilisation faits par les ONG et les organisations sur place là-bas, on cherche des solutions pour passer de l'actualité. Enfin, je sais que dans un tout petit village du Bénin, il y a un type qui est venu me voir pour me dire « Est-ce que vous pourriez nous montrer des images de la guerre du Golfe ?» Ils savent parce qu'ils écoutent beaucoup la radio quand même, ils écoutent beaucoup RFI aussi, mais ils n'ont pas d'image. Ils n'ont pas d'image et nous, on a amené vraiment de l'image et ils réclamaient aussi des images d'actualité.
C'est-à-dire vous leur avez donné de l'appétit.
On leur a donné de l'appétit. Je sais qu'on a fait quelques trucs proches de l'actualité, mais plutôt festifs. On a passé au Bénin, on a passé en direct le match de foot des écureuils, l'équipe nationale du Bénin contre je crois que c'était le Ghana où ils ont gagné, où ils ont été qualifiés pour la CAN.
Ça a été
une fiesta incroyable. La cassette a été enregistrée, elle a été repassée dans tous les villages où on passait.
Et totalement usée aujourd'hui.
Bon, puis là, ce qui était drôle, c'est qu'on s'est installé sur la grande place de Ouida. Bon, là, on est en ville, c'est des gens qui font la télé et tout ça. Et donc, notre technicien, qui est un fanat de foot, il a démonté son ancienne télé, il a fait un trou dans le sol sur la grande place et on a eu l'antenne et on a eu l'image. Bon, c'est assez magique.
Et RFI qui est partenaire de cette opération.